En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Madame, monsieur, bonjour. Dans cette émission, vous allez entendre Geneviève Gobillot, professeure de civilisation arabo-musulmane et d'histoire des idées à l'Université de Lyon, spécialiste de la mystique musulmane des premiers siècles qui, depuis 12 ans, travaille sur les lectures intertextuelles et interculturelles du Coran. Elle intervenait lors du colloque organisé par la Fondation Ostad Elahi à l'occasion de la 10e journée de la solidarité humaine, le 10 septembre 2011, sur le thème « Quelle sagesse pour notre temps ?». Geneviève Gobillot a intitulé son intervention « Le Coran, guide de lecture des Écritures ». L'émission que vous allez écouter se divise en deux moments, deux parties. Dans la première et durant une dizaine de minutes, Geneviève Gobillot développe son propos sur le Coran. Dans la seconde, elle répond à quelques questions posées par le journaliste Jacques Pogam.
Mesdames, messieurs, je vais essayer de vous présenter le plus rapidement possible ce qui va être peut-être un peu compliqué. Pourquoi le Coran recèle une sagesse pour notre temps, au sens précisément où l'a expliqué en particulier M. Bourgeois tout à l'heure. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne vais pas vous dire quelque chose de nouveau sur le Coran, mais au contraire, essayer d'éclairer quelque chose que dit le Coran et qui n'a peut-être pas été vu dans sa totalité pour diverses raisons historiques. Le Coran, en vérité, considère précisément que la science, le ilm dont parlait M. Hayoun tout à l'heure, Ben Hayoun, le ilm est à l'intérieur du texte. Le ilm ne peut se trouver qu'à l'intérieur du texte. Tout ce qui pourra être apporté de l'extérieur de ce texte ne fera que cacher cette sagesse. Donc nous allons essayer tout simplement de plonger un tout petit peu à l'intérieur du texte. J'ai proposé de cette plongée à l'intérieur du texte par un biais qui est l'intertextualité. Alors cette intertextualité, elle existe, elle est dans le texte. La question est de savoir comment elle a été interprétée jusqu'à nos jours. Cette intertextualité n'a pas toujours été saisie comme elle aurait dû l'être. Dès les débuts peut-être de l'islam, elle n'a pas été vraiment saisie, parce que dès le départ, beaucoup de musulmans, on leur a appris, si vous voulez, que le Coran se suffisait à lui-même et ils l'ont interprété comme le fait que le reste des textes devait être mis de côté. Or, le fait que le Coran se suffit à lui-même n'implique pas une mise de côté des autres textes. C'est un premier point. Et ensuite, au niveau de l'orientalisme, donc qui a des racines très anciennes, les orientalistes ont la plupart du temps compris cette intertextualité comme des emprunts, une série d'emprunts, une série d'influences ou une série, à la limite presque, de plagiat. Tout cela a gâché considérablement l'approche du Coran. Simplement, l'approche que je propose maintenant, c'est de considérer l'intertextualité de l'intérieur du texte coranique lui-même comme quelque chose de voulu, et ce qui est le cas, voulu par le texte lui-même. Donc, une intertextualité voulue qui, tout d'abord, se définit par sa richesse et par sa diversité. Cette richesse et cette diversité donc implique le fait que le Coran s'intéresse à des textes qui ne sont pas seulement les textes bibliques. Mais il y a les textes bibliques, les textes parabibliques et même ce qu'on pourrait appeler les textes post-bibliques qui sont quelquefois des commentaires sur les textes bibliques. Donc le Coran introduit, volontairement introduit à cet univers de pensée. Il introduit à cet univers de pensée, mais non pas d'une manière désordonnée et par hasard, mais à partir de certains points de vue bien particuliers. Alors, tout d'abord, du point de vue de la multiplicité. Que signifie cette multiplicité? Le Coran fait volontairement allusion à donc, des passages bibliques qui peuvent être des passages évangéliques, qui peuvent être des passages de l'Ancien Testament, donc du Deutéronome, de la Torah, disons globalement de la Torah, et même de la plupart des autres livres du judaïsme. Et puis également fait volontairement allusion à des textes donc, que nous considérons, enfin que les chrétiens ou les juifs ont considérés comme apocryphes, donc des pseudépigraphes de l'Ancien Testament et ce qu'on a appelé les apocryphes du Nouveau Testament. plus encore un grand nombre de textes. Mais restons seulement dans les textes bibliques et parabibliques. Donc, que signifient ces choix ? Ces choix volontaires du Coran signifient que tous ces textes ont une certaine valeur. Il y a là un problème de canonicité, si vous voulez. Hein ? Qu'est-ce que c'est finalement que les canoniques ? C'est finalement, ça a été des rassemblements de textes qui ont été faits par les chrétiens et les juifs. À l'époque où le Coran s'exprime sur le sujet, les canons ne sont même pas encore vraiment fixés, surtout dans le christianisme. Donc, le Coran propose de se baser sur un canon, finalement, beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Donc, un canon dans lequel rentrent, justement, énormément d'apocryphes. Que signifient ces apocryphes ? Ces apocryphes représentaient chacun, finalement, un groupe religieux qui pouvait être des gnostiques, qui pouvait être des manichéens, qui pouvait être beaucoup de groupes religieux qui existaient à l'époque. Ce premier point, ce que veut dire par là le Coran, c'est que nul n'est exclu. Nul texte sacré monothéiste n'est exclu, et donc nul n'est exclu a priori. Mais il y a une autre chose. Le Coran ne propose pas de prendre globalement tout cet immense canon de façon indifférente. Le Coran propose d'avancer à l'intérieur de ce canon par rapport à une certaine sagesse. Donc on ne peut pas lire cet ensemble de textes n'importe comment, on doit la lire en fonction d'une sagesse. Et c'est cela que le Coran, c'est cette sagesse que le Coran propose d'apporter. C'est-à-dire un certain nombre de critères pour déterminer comment lire ces textes, c'est-à-dire finalement comment séparer une certaine ivrée d'un certain bon grain à l'intérieur de ces textes. Alors, cette démarche, c'est une démarche qui ne surprend absolument pas pour l'époque où le Coran est apparu. On l'a trouvé chez les manichéens en particulier, mais on l'a trouvé dans le judaïsme lui-même, dans les commentaires rabbiniques, et on l'a trouvé aussi bien chez les pères de l'Église. C'est-à-dire certains passages de l'Écriture qui accrochaient, qui ne passaient pas. Donc, le Coran propose ses propres critères de lecture de ces passages de l'Écriture qui souvent ont déjà été épinglés par les rabbins ou épinglés par les pères de l'Église et qui proposent cette relecture. Mais cette relecture, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle a de particulier qu'elle est apportée par Dieu. Donc, ce n'est pas une relecture censée être apportée par les hommes. Donc, c'est une réécriture, finalement, de certains passages de ces textes. Alors, rapidement, je vais vous parler de ces critères, enfin, rapidement, de la teneur de ces critères. Je suis obligée d'aller très vite. La teneur de ces critères, ce sont des critères, justement, éthiques, essentiellement, d'éthique et de morale. On peut dire, par exemple, que l'un des grands critères, bien entendu, c'est ce qu'on a appelé l'unicité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, l'unicité de Dieu ? Ce n'est pas seulement, bien entendu, affirmer « Dieu est unique ». Pour le Coran, l'unicité de Dieu, c'est se forger une pensée selon laquelle on va justement mettre Dieu avant quoi que ce soit, et d'abord avant soi-même. Ensuite, mettre Dieu avant les religions. C'est-à-dire, les religions ne sont pas dénigrées, mais elles ont une place qui est d'être au service à la fois de Dieu et de l'homme. Donc, ce qui compte, c'est justement Dieu avant tout et les religions ensuite. Et les religions ne doivent pas s'imposer en tant que religion élue et exclusiviste. Donc le Coran, c'est le rejet aussi de tout exclusivisme religieux. Voilà un premier critère. On a ensuite des critères beaucoup plus concrets, justement le refus de la violence et tout d'abord le refus d'attribuer par exemple la violence à Dieu ou à un prophète. Et tout au moins le refus de penser qu'un prophète par exemple a pu accomplir des fautes sans se repentir. On a par exemple cette idée que Adam, donc après la faute, eh bien s'est repenti. On peut le tirer peut-être, on peut l'extrapoler de la Bible, mais le Coran dit « Oui, soyez-en sûrs, Adam s'est repenti ». Moïse, après avoir tué l'Égyptien, on n'a pas de preuve précise qu'il s'est repenti dans la Torah. En réalité, le Coran dit « Ben oui, il s'est repenti ». Il y a des précisions de ce genre. Également, Dieu ne peut pas commettre de meurtre voulu et ne peut pas commettre de violence. Donc, on a nos 10 plaies d'Égypte de la Bible qui deviennent 9 dans le Coran, c'est-à-dire pas de mort des fils aînés des enfants d'Égypte, parce que Dieu n'agit pas comme cela. Donc, nous avons toute une série de critères de ce genre qui jouent pour une relecture des textes, de tous les textes sacrés, de tous les monothéismes de l'époque. Le Coran se place en tant que guide de lecture. Alors, rapidement, deux mots sur la méthode. Comment propose-t-il d'être guide de lecture ? Alors, à travers la fameuse méthode de l'abrogation. Qu'est-ce que ça veut dire abrogation ? On a toujours tendance à penser que on dit le Coran abroge les textes antérieurs. Oui, justement, il les abroge. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'il les a effacés, rejetés, mis de côté. Cela veut dire qu'il enseigne des rectifications, corrections, manières de les lire différentes. Comment les lire ? Et abrogation et oubli, c'est-à-dire que lorsque quelque chose ne peut pas être abrogé, vraiment choquant, comme cette dixième plaie d'Égypte, alors on l'oublie. On l'oublie tout simplement. Ce sont les deux critères d'action du Coran sur les textes anciens. Et pour finir, je dirais que le Coran, ses critères de lecture, donc de morale et d'éthique, eh bien, la personne à qui il entend le mieux les appliquer, c'est à son propre lecteur. Lecteur, si tu veux me suivre, si tu as confiance dans ce que je dis, tu dois d'abord te réformer toi-même. Et le Coran est une épreuve, est une initiation de lecture pour qui va vouloir se transformer lui-même suffisamment pour devenir capable non seulement de lire les textes antérieurs, mais de lire aussi le Coran lui-même, qui a ses secrets, qui a ses mystères. Je ne peux pas en parler, ce serait trop long. Et donc, qui va se transformer, il y a une transformation du lecteur lui-même qui est requise. Et cette transformation, elle est premièrement, justement, dans la connaissance de tous les textes, dans l'acceptation de tous les écrits, et par amour pour Dieu, dans l'acceptation de tous les hommes, et de l'ouverture de la miséricorde, de reconnaître que la miséricorde divine s'applique à tous, c'est-à-dire que le salut n'est refusé, en principe, à personne. Et je m'arrête.
Je vous applaudis, merci. Je vais vous avouer mon inculture, mais j'ai sursauté en entendant quelque chose. Alors j'aimerais bien que vous le redisiez, Geneviève Loubiou. Quand vous dites dans le Coran, il n'y a pas d'exclusivisme religieux, donc dans la religion musulmane, on ne considère pas que la voix musulmane soit...
Alors justement, je n'ai pas parlé de la voix musulmane. Pas parlé de la religion.
Non, mais vous avez dit, vous avez employé la formule. Hein.
Oui,
il n'y a pas d'exclusivisme religieux.
Je vous ai dit.
Je suis pas le seul à avoir réagi.
Oui, oui, tout à fait. Dans le
vous
Coran.
Vous l'avez aussi. Hein. Alors expliquez-nous, parce que là, c'est quand même, c'est gros, ça.
Dans le Coran, il n'y a pas d'exclusivisme religieux. Au contraire, c'est un effort énorme pour détruire la notion même d'exclusivisme. Donc, il y a... Alors, il faudrait presque...
C'est-à-dire,
je vais essayer de vous le dire.
Ça veut dire qu'un musulman doit considérer qu'un chrétien peut avoir la vérité comme lui a la vérité, qu'un juif...
Cela ne veut pas dire qu'il considère qu'un chrétien a la vérité comme lui, mais il considère qu'un chrétien, en suivant son chemin de chrétien, peut suivre un chemin qui le conduit à Dieu.
D'accord.
Mais cela ne veut pas dire que le chemin du chrétien est meilleur que le sien. Mais le
d'accord.
chrétien a
non,
un chemin qui doit être respecté.
D'accord. Okay.
Et qui peut conduire à Dieu.
D'autre part, vous parliez d'abrogation et d'oubli. Vous avez cité un exemple. Vous pourriez nous en citer d'autres, parce que ça, c'est passionnant.
Oui, il y a énormément de passages. Bon, parmi les principes essentiels du Coran, il y a l'idée de la transcendance absolue des esprits. C'est très important, et vraisemblablement à l'époque c'était très important, mais je crois que de nos jours ça peut être encore très important. L'idée que l'esprit est totalement transcendant. Par exemple, les anges, la question des anges qui était très importante à l'époque et aussi, je crois, aussi de nos jours. Les anges, finalement, comment doit-on les considérer ? Alors, le Coran reprend un certain nombre de thèmes. On a le fameux thème biblique des anges, des messagers qui étaient venus voir Abraham à Mambré. Donc, dans le texte de la Torah, lorsque les messagers sont arrivés auprès d'Abraham, Abraham a sacrifié un veau et ils ont mangé. Alors, la question a été soulevée par de nombreux rabbins, et de se dire, est-ce que ces messagers pouvaient être des anges ? Qui c'était ces messagers ? Ils ont mangé. Alors, petit à petit, si vous voulez, avec le temps, on en est arrivé à l'idée que ça ne pouvait être que des anges. Alors, c'était très embêtant. Donc, un apocryphe, comme par exemple donc, le testament d'Abraham, a essayé de résoudre la question en disant, tiens, finalement, ces anges qui sont arrivés, lorsqu'Abraham leur a apporté ce veau, étaient très ennuyés et ont dit à Dieu, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Abraham nous apporte un veau, vous savez bien que nous ne pouvons pas manger, nous sommes des purs esprits, donc qu'est-ce que nous allons faire? Et alors Dieu leur dit, ne vous en faites pas, vous allez toucher la nourriture de vos mains et au moment où vous la toucherez, je vais envoyer un esprit mangeur qui va faire disparaître le veau. Et alors après, encore plus miraculeusement, Sarah va voir le veau qui va justement revivre. Alors on a toute une thématique là sur justement la question de la viande, de tuer des animaux, etc. puisque le veau va aller téter sa mère après. Mais alors le problème, donc, dans le testament d'Abraham, il est dit ça. Donc vous toucherez la viande et elle disparaîtra. Ben, le Coran, il y a une logique très absolue dans le Coran qui fait que ça ne peut pas marcher. Si ces gens n'ont pas de corps, si ce sont vraiment des anges, ils ne pourront pas davantage toucher la nourriture que la manger. Donc le Coran est très clair, ils ne l'ont pas touché, ils n'y ont pas mangé, ils n'y ont pas touché. Donc, si vous voulez, il y a des, voilà le genre de rectification, d'abrogation très fine, mais qui conduisent beaucoup plus loin, comme par exemple l'idée, dans d'autres passages, suggérer que l'idée de la chute des anges, la chute des fils d'Élohim, ne peut pas exister. Alors là, c'est un oubli. Oublier la chute des anges, oublier la chute des fils d'Élohim, c'est impossible, parce qu'on ne peut pas attribuer à l'esprit ce qui est au corps. Donc, déjà, rendons au corps ce qui est au corps et à l'esprit ce qui est à l'esprit, parce que c'est un dévoiement que d'attribuer à l'esprit ce qui est au corps.
Là, on voit un réalisme et une sagesse très, très profonde, mais Maurice Ben Ayoun me posait une petite question pour vous, là. Comment la jument verte de Mahomet est montée au ciel, alors?
Ben, en tout cas, ça n'a rien à voir avec le Coran, donc là, je ne pourrais pas vous répondre. C'est, il s'agit d'un certain nombre de traditions, mais c'est encore autre chose. Alors, à ce propos, juste un mot, si vous voulez,
un aspect mythique. Un apocryphe endurci, ça.
Non, un petit mot, un aspect mythique, par exemple. L'aspect mythique, si vous voulez, légendaire, n'est pas du tout exclu dans le Coran. C'est-à-dire que le Coran peut utiliser, par exemple, des légendes comme le roman d'Alexandre, peut utiliser l'Iliade et l'Odyssée, peut utiliser Platon, justement. Il n'y a pas d'exclusion d'un corpus, mais simplement, dans le Coran, chaque chose est remise à sa place. C'est-à-dire rendre à César ce qui est à César et à Alexandre ce qui est à Alexandre. Mais là, je ne peux pas développer plus.
Mais là, à vous entendre, on a vraiment l'impression d'une attention profonde aux textes des autres religions.
Absolument.
De la part des... Alors, est-ce que ça veut dire que ce que l'Espagne a connu, par exemple, pendant, je crois que ça a fait 7 siècles à peu près, hein, ce qu'on a appelé la période de convivialité espagnole, pourrait revivre aujourd'hui? Est-ce qu'après tout, on pourrait...
Certainement que
oui,
ça pourrait. Enfin, le
possible.
Coran est un appel constant à cela. Le Coran est un appel constant à cette réalisation. Et bon, il y a, au cours de l'histoire, il y a des groupes qui ont tenté de réaliser concrètement, comme par exemple les Ikhwan al-Safa, hein, parmi les Ismaéliens, qui ont concrètement réalisé finalement cela. Alors, le problème, c'est qu'ils ont été situés par d'autres dans une hétérodoxie que le Coran ne tolère pas. Bon, alors ça, c'est une autre histoire.
Donc, nous devons aujourd'hui pouvoir profiter de cette ambiguïté.
Il n'y a pas de raison, le Coran est là, comme les autres textes sacrés, pour tous.
Geneviève Gobillot, merci.
Ce colloque, Quelle sagesse pour notre temps, organisé par la Fondation Ostade Elahi, s'est tenu sous l'égide de l'Académie des sciences morales et politiques, en partenariat avec Le Monde des religions et Canal Académie, à la Fondation Simone Elsino del Duca à Paris. Sur Canal Académie, vous pourrez entendre l'intégralité des interventions de ce colloque. Elles seront diffusées au fur et à mesure des mois qui viennent. Vous pouvez aussi écouter une émission avec le philosophe Bernard Bourgeois de l'Académie des sciences morales et politiques qui présente ce colloque et surtout qui explique pourquoi notre époque n'est pas, selon lui, propice à trouver la sagesse. Voici les coordonnées de la Fondation Ostade Elahi, éthique et solidarité humaine, une fondation reconnue d'utilité publique. Adresse postale 59 avenue Victor Hugo, 75 016 Paris. Téléphone 01 47 27 14 89 et adresse courriel info@fondationostadelahi.fr. Et sur le site internet, vous pouvez consulter www.fondationostadelahi.fr.